Il fait presque aussi sombre que dans la salle de cinéma. On est dans ce qui ressemble à un bureau bourgeois. Lui, il prend toute la place. Vous savez, il est debout, dominant, costume et barbe blanche. Il verse de l'alcool dans deux verres en cristal. Et puis, il la voit. Nous, on doit attendre assez longtemps avant qu'elle entre en scène sculpturale, qu'elle défile lentement jusqu'à ce que la caméra se fixe sur son visage en gros plan. Un court moment, trop court moment. Elle n'a pas encore ouvert la bouche que il s'est assis, lui. Et c'est elle qui sera debout pendant toute la scène, à lui dire « good to see you », à le séduire jusqu'à le mettre à genoux, à être celle qui parle aussi, celle qui raconte, celle qui lui dit ses clients passés, mensonges ou vérités. Et on sait bien qu'elle n'est pas là pour jouer aux cartes, comme disait ma grand-mère. On sait aussi qu'il va la payer et que tout ça, c'est du cinéma. Mais la façon dont elle est filmée lui donne quelque chose qu'on ne pouvait pas soupçonner. La liberté. Lui reste assis, immobile, alors qu'elle, on peut pas la figer. Elle sort du champ, on n'entend que sa voix. Le plan doit s'élargir comme pour la capturer, mais elle nous échappe à nouveau. Il faut même que la caméra se retire de plus en plus loin, si bien que quand elle se déshabille, on ne la voit presque pas. Il n'y a que sa voix. Ça, c'est du cinéma. C'est une scène de Clout d'Alan Pakula en 1971 avec Jane Fonda.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a été nourri et n'a cessé de se réinventer à travers des images de cinéma. La semaine dernière, elle recevait le prix Lumière à Lyon pour l'ensemble de sa carrière. Lundi, elle était à la Cinémathèque avec Women in Motion pour inaugurer la grande rétrospective qui lui est consacrée jusqu'au 5 novembre. Alors de l'engagement ce matin, du féminin, de la passion, de la sagesse aussi. Bonjour Jane Fonda.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Être une femme libre sur un écran de cinéma, ça tient à quoi pour vous ?
Il faut avoir du confiance en soi, il faut avoir un bon metteur en scène, il faut avoir un personnage libre. En fait, un acteur peut être libre en tant qu'artiste, même en jouant quelqu'un qui n'est pas libre. Je crois que ça peut arriver quand... toute l'énergie créative, toutes les idées, toute l'imagination est en pleine forme, libérée, quoi.
Je pense à, évidemment, à un film comme Clout d'Alan J. Pakula, par exemple, pour lequel vous avez reçu un Oscar en 1972 et dont je viens de décrire une image. Quelle image de la femme, du féminin, est-ce qu'il donne, ce film, pour vous ?
Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je joue une... elle n'est pas prostituée, elle est un call girl, c'est-à-dire que...
On est payé
davantage. Je ne sais pas.
Vous diriez qu'elle est libre ?
Non. Je me suis demandé à l'époque, quand j'allais commencer de tourner Clout, pourquoi une femme comme ça, qui était assez douée, on voit à un moment donné qu'elle manque pas de talent en tant qu'actrice, pourquoi elle vend son corps? Après un certain temps, j'ai réalisé que en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, elle a dû être violée sexuellement. Quand ça arrive à une jeune fille, elle perd le, comment dirais-je, trust, la confiance. Elle n'a plus de confiance dans les gens. Elle porte une culpabilité, même quand c'est pas sa faute. Alors, c'est une sorte de prison psychologique pour une femme. Donc, je crois pas qu'elle était libre.
C'est un film très important pour vous, Jane Fonda. Qu'est-ce qu'il a changé dans la relation que vous entretenez avec vous-même, avec votre féminité, avec votre corps? En quoi est-ce que ce film, il a été libérateur pour vous?
À l'époque, quand on a tourné, c'était 1971, et je commençais à peine à comprendre le féminisme. Et pendant le tournage, il y avait une scène à la fin, une scène assez extraordinaire d'ailleurs, quand je réalise que l'homme devant moi, c'est le même qui a tué mon ami et qui veut me tuer. Il y avait des larmes qui sortent de mon nez. Et les larmes venaient pas de peur. Ils venaient parce que je pensais à toutes les femmes qui meurent, qui sont tuées à cause des hommes enragés, for whatever reason, misplaced rage of men. And je pleurais pour elle. Mm. Et au même moment, je me suis dit, ah, le féminisme commence à rentrer dans mon corps, dans mon psychique. Je crois que je deviendrai une meilleure actrice à cause de ça.
À une époque où on disait des femmes, des petites filles, des jeunes filles, qu'elles devaient être des good girls, des gentilles filles. Quand est-ce que vous avez compris, Jane Fonda, que vous étiez une bad girl?
Je n'ai jamais été une bad girl. Je faisais toujours mon mieux. Mais à un moment donné, je refusais à fermer la gueule, à dénier mon rage, surtout sur la guerre au Vietnam.
Oui.
Et après, sur le traitement des femmes, la violence contre les femmes. Ça c'est arrivé dans les années 70. Oui.
All right, this is weight workout number one, and let's start off with a 2-minute warm-up. Ready, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
C'était la première fois où j'étais devant la caméra. J'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale. Moi, Jane Fonda, était là. Et puis cette image était là. Et il y avait cette aliénation entre les deux.
What do you want, the whole floor?
Oh, I'm terribly sorry.
Well, she's throwing it around, her feet will last longer than her rear end. Reed Daniels.
One man is missing. Two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone.
Hello?
Don't be afraid.
The winner is Jane Fonda, The Clute.
J'ai décidé que je ne pouvais plus rester libérale, que je ne pouvais plus fermer ma gueule.
It was the war in Vietnam who forced me to ask myself certain questions about America. Because although the bombs are falling on Vietnam, it's an American tragedy.
It's a wonder, Wonder Woman. You're so wild and wonderful.
It took me 60 years to realize that although I was a feminist in my head, that I didn't embody feminism.
Barbarella, psychedella, there's a kind of cockle shell about you.
Barbarella, Barbarella.
Si vous regardez en arrière, Jane Fonda, de quoi est-ce que vous êtes la plus fière dans ce parcours cinématographique, mais aussi dans ce parcours militant?
C'est drôle, c'est bizarre peut-être, mais il y avait un moment donné, quand j'avais 65, 66 ans, j'étais divorcée, j'étais seule, j'étais très heureuse, étant seule d'ailleurs, et j'ai réalisé que il faut vivre avec intention. Il faut essayer de comprendre sa propre vie.
Oui.
What is the meaning of my life?
Quel est le sens de sa vie?
Oui. Et qu'est-ce que je peux faire pour entre ce moment-là et la fin de ma vie pour que je puisse le vivre avec intention et compréhension? Je voulais arriver à la fin sans regret. Et je suis fière que j'avais réussi. Enfin, c'est pas fini encore. Je vais peut-être rater tout. Mais je suis fière que j'ai fait de ma vie un produit artistique, un sorte de produit qui peut apprendre aux autres une façon de vivre qui est différente, qui montre, je crois, la valeur de ne pas, how do you say, settle.
S'installer.
S'installer trop tôt. Mm. Je suis ça. Maintenant, je suis ça. Il faut toujours essayer d'être mieux, d'avancer dans tous les domaines humains.
J'ai l'impression que vous n'avez jamais eu peur de rien.
Oh, j'ai peur tout le temps.
C'est vrai?
Ben oui.
Vous avez peur de quoi?
Mais le courage, c'est d'avoir peur et d'aller-y quand même. J'ai peur de parler en public, j'ai peur de faire des films. Je pense toujours que je suis pas assez douée. J'avais beaucoup de trouilles récemment à Lyon. Il y avait 5000 personnes à la fin. Crénom de Dieu. J'ai peur. Oui, j'ai peur, mais je m'en fous j'y vais quand même.
En tout cas, s'il y a quelque chose dans lequel vous avez toujours eu confiance, c'est le cinéma, Jane Fonda. Lorsque vous avez été remis le prix Lumière la semaine dernière, vous avez dit que le cinéma avait le pouvoir de changer les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Par exemple, j'ai fait un film, The China Syndrome, le syndrome chinois, sur l'énergie nucléaire, qui montrait ce qui peut arriver s'il y avait un accident. Et c'était un film très fort. Et après ça, il y a beaucoup de gens qui ont décidé que c'était pas une bonne idée. Je sais que ça, on ne doit pas dire ça en France, parce que le nucléaire, c'est très fort ici, en Europe. Mais c'est une technologie qui, comment dirais-je, don't forgive, it's an unforgiving.
Qui ne pardonne pas.
Qui ne pardonne pas, oui. S'il y a un accident, ce qui est relâché,
oui,
ça dure presque toujours, pour certes, toujours, oui.
Et faire ce film, ça a le pouvoir justement de faire
ça
changer les choses.
Ça change des gens aussi, je crois, le film Le Retour, dont je participais dans la production, a changé les idées sur les vétérans, les soldats qui revenaient du Vietnam avec le PTSD.
Le syndrome post-traumatique.
Oui, c'est ça, oui.
Ses nuits sans dormir, gâcher son bel avenir, la croupie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la croupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à pas rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, un geste tendre, la croupie du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la croupie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, même l'enfer c'est pas grand chose. À côté d'être seule sur terre, elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime.
Jane Fonda, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour parler d'une vie de cinéma, faire du cinéma, devenir comédienne, ça n'a jamais vraiment été un rêve ni un désir, j'ai l'impression, c'est arrivé un petit peu par hasard, non?
Oui, j'étais foutue à la porte en tant que secrétaire, j'étais pas douée à quoi que ça soit, alors la fille de grand maître Lee Strasberg m'a dit pourquoi pas faire les études à côté de Lee Strasberg, et c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit que j'avais du talent. Ça m'a donné du confiance. Mais je dois dire que même maintenant, c'est pas le, j'aime beaucoup mon métier. Ça me donne beaucoup de joie de jouer, même encore plus qu'avant. Mais c'est pas la chose la plus importante dans ma vie. La situation sociale, oui, est aussi importante. Mmh. Et je pense beaucoup davantage de ça qu'au cinéma. Mais ce que j'ai appris maintenant, je suis vieille, mais quand même, j'ai une série de télévision, Grace and Frankie, qui est très très populaire mondialement. Puis je faisais un film récemment, Le Book Club, qui a marché très bien. Alors, ça m'aide beaucoup en tant qu'activiste.
Oui.
Et ça, c'est important. C'est pour ça que je continue à travailler.
C'est d'ailleurs l'identité de votre carrière d'actrice, que de mêler sans cesse le cinéma aux politiques. À l'époque, votre père, Henri Fonda, il en disait quoi de votre carrière dans le cinéma? Comment il le vivait, lui?
Il n'a jamais encouragé, moi ou mon frère Pierre, Peter, Easy Rider. Mon père avait peur, je crois, qu'on n'avait pas du talent et qu'on va rater la carrière. Alors, il n'était pas encourageant, quoi.
Vous savez à quoi je pense là maintenant? Je pense à un film qui s'appelle On Golden Pond, La Maison du Lac, oui, en français. Un film où vous jouez la fille de votre père et c'est absolument bouleversant parce que oui, c'est justement l'histoire d'un père et d'une fille qui ne se comprennent pas. Ce film, également avec Catherine Hepburn, c'était le dernier de votre père et il lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, yeah, que vous êtes d'ailleurs allé chercher pour lui.
Oui.
Dans votre immense filmographie, Jane Fonda, quelle place il a ce film pour vous?
C'est la place en premier, quoi. C'était un film très important pour moi. Je savais que mon père mourait. Il est mort 5 mois après la sortie du film. Je n'avais jamais joué avec lui avant. Les personnages de père et de fille dans le film étaient très proches de la vérité entre mon père et moi. Donc, c'était un peu de psychothérapie, pour moi en tout cas. Pour moi, c'était un grand cadeau, c'était un blessing.
Une bénédiction.
Une bénédiction de pouvoir faire ce film avec ce genre d'histoire, avec mon père avant sa mort.
Il y a cette scène près du lac où vous dites à votre père « je veux qu'on soit amis ». Et à ce moment-là, vous lui touchez le bras. Ce geste, il paraît qu'il n'avait pas été répété, il n'était pas prévu. Votre père s'y attendait pas. Pourquoi ce geste? Qu'est-ce qui s'est passé?
Toujours on répétait beaucoup avec mon père et il voulait que quand on tournait, que ça soit exactement la même chose que pendant la répétition. Et il avait peur des émotions. C'est bizarre pour un acteur. Je crois que c'est quelque chose qui vient d'une certaine génération d'hommes et un certain type d'homme qui a peur des émotions. Ça lui a fait peur, je crois. Je voulais qu'il montre un peu d'émotion. Parce que c'était une scène tellement intense.
Bouleversante.
Et tellement personnelle. Ouh là là. Alors, je fais quelque chose que je n'avais pas fait pendant la répétition. J'ai dit, je veux qu'on soit amis. Et j'ai touché son bras. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. Et il baissait la tête et couvrait ses yeux. Mais j'ai vu les larmes.
À quoi ça tient pour vous, Jane Fonda, l'émotion au cinéma? Est-ce que ça tient justement à l'imprévu, au trébuchement, à cette capacité de se laisser surprendre, à quelque chose qui arrive comme ça, l'émotion?
L'émotion sur l'écran, l'énorme écran, éclairé dans une salle noire, peuvent être rien du tout, peuvent être un visage qui ne bouge pas.
Oui.
Mais si l'acteur pense, c'est les pensées, les vraies pensées de l'acteur à ce moment-là qui se sent à travers l'écran, qui peuvent faire pleurer le public même si l'acteur ne pleure pas, qui peut faire les émotions dans le public même si l'acteur ne montre pas les émotions. Donc les émotions, c'est ce que l'acteur sent, s'il est vraiment à l'intérieur du personnage.
C'est une forme de vérité, en fait.
Une forme de vérité, oui.
Alors on va continuer à être ensemble dans la vérité, mais avec un petit peu d'engagement quand même, parce que vous êtes mon invité, tous les deux, juste après une chanson de liberté. Tiens, la première grande chanson féministe de la pop, parce qu'ici on l'aime beaucoup, Leslie Gore, You Don't Own Me. 1963, vous êtes sur France Inter avec Jane Fonda, vous écoutez Boomerang.
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me,
sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est typiquement le genre d'invité qu'on aimerait avoir avec nous, en fait, pour rester, peut-être pour prendre l'apéro, histoire de partager un petit jaune, hein, un calva, un petit mojito autour d'un bretzel, tout en cheveux. Regardez-la avec ce regard bleu qui ferait abandonner son empire au plus despote des tyrans. Elle a un collier monumental sur son petit pull noir. Jane Fonda, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour sa rétrospective à la Cinémathèque. Et lorsque je pense à vous, Jane, il y a un film qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est « On achève bien les chevaux » de Sidney Pollack. Et j'aurais aimé savoir, Jane, en quoi est-ce qu'un film comme celui-ci résonne encore, pour vous, avec l'Amérique d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a d'encore si actuel dans un film comme celui-ci ?
Ben, le film se passe dans les années 30, dans la dépression économique aux États-Unis. C'est une histoire existentielle qui était très populaire à l'époque, ici en France. Un roman de Horace McCoy, qui parle du commercialisme américain, le capitalisme toxique qui encourage des gens, des ouvriers, des gens pas riches, de danser jusqu'à collapse, comme on dit.
Jusqu'à s'effondrer.
Oui. Pour pouvoir gagner un tout petit morceau du capitalisme, un toaster.
Et ça, c'est toujours valable aujourd'hui ?
Le greed, le vouloir d'avoir tout.
Vouloir plus, toujours plus.
Je veux plus, je veux plus. Ça existe, malheureusement. C'est ça qui tue la Terre et la civilisation même. You know, j'ai l'impression qu'en ce moment, on parle et il y a des tas de gens en France en conduisant vers leur travail qui écoutent. Si je pouvais, juste pour une minute, me mettre dans leur cerveau, qu'est-ce que ça donne pour un Français ou une Française, le matin, en conduisant, de quoi ils ont peur, de quoi ils ont l'espoir? Est-ce que c'est très différent qu'un Américain? Comme ça, je ne sais pas. Mais c'est un moment très difficile pour nous tous, les Français autant que les Américains. Et quelle est la question ?
En tout cas, j'aime l'idée que vous vous mettiez dans la tête des auditeurs, Jane Fonda. Est-ce que c'est vrai que Sidney Pollack, c'est en fait le premier réalisateur qui vous a demandé votre avis sur un projet pendant que vous étiez en train de tourner et que ça a tout changé ?
Ça m'a beaucoup touchée. Il était tout nouveau comme metteur en scène. Personne le connaissait. Et bon, il est venu un jour chez moi. J'étais avec Roger Vadim à Los Angeles. Il m'a donné le livre de Horace McCoy en me demandant, relis-le pour voir si on a manqué quelque chose dans le scénario. J'aimerais bien avoir votre opinion. Personne m'a jamais demandé mon opinion. C'est comme mes idées n'avaient pas de valeur. Et ça m'a vraiment changé. Et ce que j'ai appris de ça, c'est comme c'est important de donner aux jeunes le sens que leurs idées ont de valeur. Il faut demander aux jeunes leurs opinions et écouter vraiment.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, vous n'aviez pas vraiment accroché avec le scénario d'On achève bien les chevaux. Et c'est Roger Vadim, avec qui vous étiez marié.
Il a insisté.
Qui a insisté,
oui. Oui, parce qu'en tant que Français, il savait que le roman était une chose très importante, que ce que le roman voulait dire, c'était très important.
Il avait des bonnes idées, Roger Vadim.
Bonnes idées, oui, sur certaines choses, oui. Et il m'a persuadé de le faire et je le remercie beaucoup.
Barbarella, c'était une bonne idée ?
Oh, pourquoi pas? Non, je crois que à l'époque, il y avait un tas de jeunes gars vers le 14-15 ans qui a eu leur première éjaculation à cause de Barbarella.
Alors, qu'est-ce que
j'en
ça
suis fière. Maintenant, je le vois et je trouve le film charmant et drôle.
Vous vous rendez compte de ce que vous avez provoqué? Un nombre incalculable d'éjaculations, Jane Fonda.
Des millions.
Avant Vadim, qu'est-ce que ça représentait la France pour vous, pour la jeune américaine que vous étiez ?
Romantique, sensuelle, pas seulement à cause du sexe, mais le gastronomie, l'art, la poésie, les romans, le cinéma.
Le cinéma aussi.
Yeah, c'était la nouvelle vague. Mmh. And, à mon avis, la France à cette époque, c'était le centre de l'ouragan artistique.
Et comment vous êtes arrivé ici, en France ?
Vierge. Dans certains sens, vierge en expérience, en... pas physiquement vierge, mais émotionnellement, psychologiquement vierge. Alors la France et Vadim m'a formé beaucoup.
C'était la France.
J'étais ici pendant les événements de mai, alors ça m'a bouleversée parce que j'étais enceinte avec ma fille à l'époque. Et quand une femme est enceinte, elle est comme une éponge. Tout rentre profondément en elle. Bon, il y avait l'offensive de Tet au Vietnam, qui était une chose bouleversante pour une Américaine de voir sur l'écran télévision français. Puis tous les Français autour de moi savaient qu'on ne pouvait pas gagner cette guerre. Et puis, il y avait les grands mouvements aux États-Unis à l'époque et les événements de mai, quand les ouvriers et les étudiants se rassemblaient pour changer l'administration de De Gaulle.
Vous vous êtes sentie française, vous, Jane Fonda, à ce moment-là ?
Non. Non. Non, c'était le... Je me sentais très américaine. Très américaine. Je voulais rentrer chez moi pour joindre les mouvements contre la guerre. Parce que je ne pouvais pas lutter ici. C'était jamais pas parlé de mon pays ici, en France, d'une façon négative.
Et quel lien est-ce que vous avez gardé jusqu'à aujourd'hui avec la France ?
Pour moi, la France, c'est mon deuxième chez moi. Je me sens comme chez moi, ici. Il me faut toujours à peu près une semaine pour pouvoir penser en français. Je suis presque là.
Vous y êtes,
je suis en France depuis 5 jours.
Vous nous avez fait une démonstration de français. J'aimerais que la plupart de mes invités parlent comme vous, Jane. Croyez-moi, c'est pas le cas,
si
même
vous
les
êtes
Français.
Gentil. Oui. Mais, je sais pas, j'aime les femmes françaises. J'aime leur façon de parler. J'aime les murs en pierre. En pierre avec la mousse. J'aime les couleurs des immeubles en France. J'aime les toits de
Paris.
De Paris. J'aime la langue, j'aime le son du langue français, j'aime la musique. J'adore Edith Piaf et Jacques Brel. Johnny Hallyday aussi, d'ailleurs. Et je sais pas, je me sens très lucky.
Chanceuse
d'avoir pu vivre en France pendant 8 ans.
En tout cas, cet amour, ben on vous le rend, Jane Fonda, profondément. Merci infiniment. Tout de suite, les médias, juste après ça.
sur France Inter.